signe des temps. Marc Wetzmann.
Et bonjour à tous. Guerre est le premier des manuscrits inédits retrouvés de Céline que Gallimard publie ce printemps. Probablement écrit en 1934, Guerre commence là où s'arrêtait Le voyage au bout de la nuit, publié 2 ans plus tôt. Il met en scène le même alter ego de Céline, Ferdinand, se remettant de la blessure au bras après la balle qu'on l'a vu recevoir à la fin du précédent livre. C'est donc à un nouveau roman sur la Première Guerre mondiale, tel que Céline en a fait l'expérience à la fois réelle et imaginaire, que nous propose Guerre. C'est un texte très violent, qui exude souvent la haine, même si cette haine est quelque peu tamisée par la préface de l'avocat François Gibault qui l'accompagne. L'histoire tortueuse et à demi niée par lequel ce texte nous est parvenu, cette préface ainsi que le glossaire de 6 pages qui l'accompagne montrent d'ailleurs qu'il n'est visiblement toujours pas très simple de publier Céline aujourd'hui en France, et peut-être moins que jamais. C'est cette édition problématique qui est un signe des temps, au moins autant que les échos du texte avec notre époque. Comme si, alors que Proust a retrouvé sa place dans la judéité française voici quelques semaines, Céline retrouvait lui aussi curieusement la sienne dans le paysage français fracturé qui est le nôtre aujourd'hui. Pour en parler avec nous, Pierre Benetti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Monde, critique littéraire pour En attendant Nado, le journal de la littérature, des idées et des arts en ligne. Et vous avez signé avec Tiffaine Samoyo « Comment peut-on lire Céline aujourd'hui ?» sur le site En attendant Nado, qui est consacré. C'est un article qui est consacré à Guerre. Odile Roinette, bonjour.
Bonjour.
Vous nous rejoignez par téléphone. Vous êtes historienne, professeure à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez écrit plusieurs livres sur Céline, Un long tourment, Louis-Ferdinand Céline entre deux guerres, 1914-1945, et aussi Les mots des tranchées, L'invention d'une langue de guerre, 1914-1919, respectivement aux Belles Lettres et chez Armand Collin. Et vous avez publié chez AOC, sur AOC le 12 mai dernier, Retour à la nuit sur Guerre de Louis-Ferdinand Céline. Alors, on va commencer cette émission d'abord en parlant de cette publication. Le Guerre est le premier des livres, des manuscrits inédits que Gallimard va publier. Il sera suivi de Londres, de La volonté du roi Krogold à l'automne 22, puis la version complète de Casse-pipe, documents qui ont été récupérés et non pas volés, comme l'affirme, contrairement à ce qu'affirme l'avocat François Gibault dans la préface du livre. Documents qui en totalisent quelque chose comme 5300 feuillets au total, retrouvés dans des conditions plus ou moins rocambolesques. Pierre Benetti, tout d'abord, sur ces manuscrits inédits, dans l'ensemble, avant de parler de Guerre en tant que tel.
Bah oui, c'est une histoire absolument passionnante qui est arrivée à travers un article du Monde au mois d'août dernier. Elle raconte beaucoup de choses, à la fois du paysage politique et littéraire, il me semble, de la France de l'occupation et de l'après-guerre, puisque Céline a lui-même mis en place la légende de ces textes perdus dont on savait pas trop ce qu'ils étaient devenus. Et il se plaignait sans cesse d'avoir été volé, pillé, qu'on avait détruit ses manuscrits. Or, la vérité historique montre aujourd'hui que les conditions de perte de tous ces manuscrits, auquel d'ailleurs, il faut ajouter quand même que dans le dossier retrouvé, il y a bien des documents antisémites, de la propagande, oui, etc. On le mentionne jamais dans l'affaire, mais on y reviendra peut-être. En tout cas, les conditions plutôt de cet abandon de ces manuscrits par Céline, elles sont bien précises. C'est le moment où les résistants et les FFI et les alliés entrent dans Paris, et que au mois de juin, ou en tout cas à l'été 44, Céline s'en va avec l'ensemble des collaborateurs. Il en fera une nouvelle épopée dans sa trilogie d'après-guerre. En tout cas, on n'est pas dans une situation de destruction. Preuve en est la possibilité aujourd'hui de les lire. Et là, il faut saluer quand même ce qui a été fait. Il faut s'en rendre compte par Jean-Pierre Thibaudat et par aussi, on ne sait pas bien par qui exactement, puisque cette histoire est liée à la rencontre du journaliste de Libération de l'époque, Jean-Pierre Thibaudat, avec un résistant, un membre de la résistance, un héritier de la résistance, qui lui remet dans les années à peu près 80-90 une valise remplie de manuscrits et de documents. Donc faut saluer quand même notre chance aujourd'hui d'avoir ces manuscrits préservés grâce quand même à ce geste des résistants de nous les transmettre d'une certaine
Alors,
manière.
Alors dans un article publié par En attendant Nadeau de Philippe Roussin et publié il y a quelques temps, l'hypothèse la plus probable qui avait été donnée était celle de Yvon Moranda qui a été effectivement un résistant, qui a rejoint Jean Moulin à un moment donné en 41 et qui en 44 qui est devenu plus tard le membre fondateur du Rassemblement du Peuple Français, le RPF, hein, le Parti Gaulliste, et qui en 44 a habité l'appartement réquisitionné de Céline. Et Céline lui-même le met en cause dans une lettre en 47 disant « Moranda a jeté aux ordures mes manuscrits de trois romans que j'avais en train, La fin des Guignols ». Et en fait, Moranda les aurait en réalité entreposés, donc, comme tous les biens de Céline, dans un garde-meuble, et Céline aurait refusé de payer les frais de garde-meuble, et c'est la raison pour laquelle c'est l'hypothèse en tout cas donnée par Philippe Roussin dans cet article de En attendant Nadeau, qui infirme complètement la thèse du préfacier de guerre François Gibault, qui continue à parler de vol, et qui confirme en fait l'idée que ce sont effectivement les résistants qui auraient finalement sauvé les manuscrits perdus de Céline. Odile Rouanet, c'est quelque chose que dans votre article publié par AOC le 12 mai dernier, vous faites valoir aussi la beauté du paradoxe, écrivez-vous, qui sous-tend cette histoire, cela même que Céline et Xécret furent conduits à protéger ces brouillons de la destruction.
Oui, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Les manuscrits, l'ensemble des manuscrits dans une guerre ne constitue qu'une partie, en effet, de l'ensemble de ces feuillets. Ces feuillets ont été en réalité sauvés de la destruction et n'ont pas volé. D'ailleurs, il y a eu une action judiciaire et cette action judiciaire a abouti en septembre 2021 au fait qu'on innocente au fond les personnes qui détenaient ces manuscrits de toute accusation de vol. Donc oui, il faut recontextualiser tout ça, c'est-à-dire que ces papiers étaient dans l'appartement de Céline qu'il a quitté précipitamment exactement le 17 juin 1944 par peur en fait des représailles de la résistance. Mmh. Et ensuite effectivement son appartement a été occupé. Et très très vraisemblablement, l'hypothèse la plus juste, c'est la récupération, la conservation de ces manuscrits par la résistance ensuite. Et c'est vrai que c'est assez beau de se dire que au fond, ceux que Céline exécrait, et ceux qu'il a continué à exécrer et à clouer au pilori, en particulier dans sa correspondance à partir de son exil. Oui. Et de sa détention au Danemark, finalement, ces résistants ont contribué à sauver ces manuscrits, mmh. Et non pas à les détruire, profonde détestation de tout ce qui pourrait être une atteinte à la création littéraire, un profond rejet de tout mmh. ce qui peut s'apparenter à l'autodafé.
Alors c'est pour finir avec sur cette histoire de vol, cette version du vol avait été donc accréditée par Céline lui-même, partie donc en Allemagne pendant l'été 44, et Céline écrivait grâce à vous nous voici au repos et au calme. Il écrivait à Karl Epting, hein, le directeur de l'institut allemand depuis Baden-Baden, grâce à vous nous voici au repos et au calme dans cet agréable séjour, en ces semaines si critiques, le mieux est d'avoir l'air d'être en vacances. Cette idée qu'il est comme en vacances en Allemagne, va de pair plus ou moins avec l'étudiant distinctif qui est en vacances et à qui on vole des manuscrits pendant son absence, en fait. C'est ça sa version, et c'est la version qui continue à être raconter aujourd'hui.
Oui, mais c'est, toute cette question des manuscrits et de leur édition ne concerne pas finalement que les spécialistes de Céline ou que le milieu littéraire. Elle concerne en vérité la relation d'un auteur assez important maintenant dans l'histoire de la littérature française du XXe siècle avec la République française. C'est-à-dire que c'est une histoire de France, car depuis 44, il y a bien un conflit suite à l'engagement antisémite et pro-nazi de Céline, et on pourrait peut-être espérer à un moment de solder les comptes, c'est-à-dire de sortir de ces débats sans fin, et que peut-être Céline redevienne, je dirais, un auteur comme les autres. Je parle pas du style ou des textes en eux-mêmes, mais c'est-à-dire un auteur peut-être déposé un jour à la Bibliothèque nationale de France, les éditions Gallimard.
Comme Jean-Pierre Thibaudat voulait le faire d'ailleurs, je crois.
Exactement, mais les 75 feuillets de Proust qui ont été édités l'année dernière, oui, par le même éditeur Gallimard ont été finalement déposés à la BNF. Oui. Pourquoi Céline échappe à ce point-là à notre finalement à notre patrimoine? Il fait partie du patrimoine, d'autant plus que là on parle de l'auteur des années 30 qui n'a pas encore écrit ses pamphlets antisémites. Donc il y a quelque chose de contradictoire entre vouloir mettre en avant le romancier de l'avant-guerre et en même temps refuser qu'il entre dans le patrimoine national, c'est-à-dire que la République pourrait l'accueillir et ouvrir les manuscrits aux chercheurs et à la critique, plutôt que d'être dans cette espèce d'affaire très privatisée quand même, parce que je rappelle que la seule édition en propre des manuscrits, où on le peut voir, les manuscrits, elle est faite par les éditions des Saint-Père. Vous pouvez acheter un volume à 160 € si, mm-hmm, si vous voulez aller le voir. Il y a quelque chose de l'ordre de la fétichisation et de la légende et du mystère quand même autour de Céline qui perdure.
Et pour finir sur cette histoire, c'est pas tout à fait abstrait, parce que ça joue sur la manière dont on le lit. Hein. Philippe Roussin, dans son article publié dans En attendant Nadeau, le disait, les ayants droit ont récupéré tous les manuscrits aujourd'hui, il l'a écrit avant la publication de Guerre, hein, et donc auront la haute main sur l'édition des textes et contrôleront ainsi les textes et l'image de l'auteur. C'est ce qui se passe avec l'édition de ce livre, qui pose un certain nombre de problèmes sur lesquels on va revenir dans une seconde, après avoir parlé du contenu du livre dont on va parler maintenant.
Je te trouverai charogne, un vilain souverain. Je te ferai dans les mires deux grands trous noirs. Ton âme de vache dans la transe peut prendre à du champ. Tu verras cette belle assistance, tu verras voir comment que l'on danse au grand cimetière des bons enfants. Mais voici tant d'enfance et son petit. Voici Clémentine et le vaillant Toto. Faut-il dire à ses potes que la fête est finie? Au diable ta sorte, car gonfle m'importe. Au malfrat t'écrase que le vent emporte. Feuille morte, souci. Depuis des pays que tu râles, que t'es cocu, que je suis ton voyou responsable, que t'en peux plus. Va pas louper l'occasion unique de respirer. Viens voir avec moi si ça pique aux grandes ocellettes du Saint-Manté. Viens voir avec moi si ça pique aux grandes ocellettes du Saint-Manté.
Là, ça, c'est Céline en train de chanter Règlement. C'est vraiment l'univers qui voulait faire. Qu'il faisait rêver, si on peut dire. Guerre, Voyage au bout de la nuit, s'est arrêté sur la blessure de Ferdinand, et le livre Guerre commence pratiquement à cet endroit-là, au moment où Ferdinand est à terre, blessé au bras. C'est un livre qui a été annoncé par Céline dès 34 dans sa correspondance, disant, il écrit, je vais faire paraître un premier livre dans un an, c'est décidé, Enfance, la guerre, Londres, et puis finalement, le livre va prendre la forme d'une trilogie. Le premier volume de la trilogie, ce sera Mort à crédit, Céline publiera en 36, et Guerre a été écrit apparemment pendant l'été 34. Le manuscrit est un premier jet, probablement jamais retravaillé. Le titre est de l'éditeur et non pas de l'auteur. Et c'est un livre qui revient sur l'expérience de la Première Guerre mondiale.
Oui, mais c'est intéressant que vous parliez d'une blessure au bras de son narrateur, puisque comme toujours chez Céline, il y a un travail de réinvention, de fantasmagorie. Donc on sait qu'il a, lui, été blessé au bras, qu'il a passé ensuite un certain temps en convalescence. Mais son narrateur, lui, il en fait un blessé à la tête et précisément à l'oreille. Ce qui fait que, évidemment, les sons de la guerre vont être extrêmement présents dans ce texte. Aujourd'hui, avec un vocabulaire plus contemporain, on parlerait d'une reconstitution fantasmagorique, complètement déchaînée, d'un post-trauma. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez fort, en tout cas dans la première partie, dans les premières pages du texte, sur cette arrivée dans l'esprit d'un homme marqué par la guerre, comme à son époque, il y en a beaucoup. On est exactement 20 ans après l'expérience du front par Céline, mais par beaucoup d'autres. En 1929, il y a quelqu'un d'extrêmement intéressant qui s'appelait à l'époque Jean Norton Cru, qui publie un gros volume, une énorme étude qui s'appelle « Témoins », où il observe la constitution des témoignages de la Première Guerre mondiale, en essayant de dire bon à qui on peut faire confiance ou pas, et il se méfie énormément des romanciers pour cela, et quelques années plus tard, il se trouve que Céline écrit quelque chose qui, à mon sens, ne saurait être pris pour un témoignage sur 14-18. En revanche, c'est un texte qui montre bien ce que la violence de guerre fait aux hommes, fait au langage des hommes, et oui. Comment il y a une appropriation de cette violence qui se transmet ensuite, parce que c'est un texte quand même qui montre la violence des hommes sur les autres, et en fait des hommes sur les femmes en particulier.
Alors on va y revenir en détail. Les faits, c'est que Céline a été un soldat patriote qui s'est engagé volontairement au début de la guerre, dans les 12e cuirassiers, essentiellement pour faire plaisir à ses parents, si j'ai bien compris, et puis l'expérience de la guerre a complètement transformé ce qu'il en pensait et sa perception. Il écrit en 32, il confie à un de ses amis, un ancien combattant qui s'appelle Joseph Garcin, le poids de la guerre dans sa trajectoire personnelle. Hein. Il dit « Vous avez raison, la guerre commande tout explique tout, je n'oublie pas, mon délire part de là. » Odile Rouanet, vous citez cette phrase « Mon délire part de là » et vous notez son ambiguïté. C'est à la fois qui fait le délire fait référence à l'expérience réelle, mais en même temps à la manière dont il va utiliser cette expérience en particulier dans sa façon d'écrire.
Oui, alors et bien sûr, il faut rappeler que je pense que l'ensemble au fond de l'œuvre célinienne et en particulier jusqu'à tous les textes qui précèdent ce qu'on a appelé ensuite la trilogie allemande, hein, mais qui là concerne la Seconde Guerre mondiale, tous les textes de Céline sont complètement habités, à part Nora Crédit, qui est un cas un petit peu à part, par cette question de la guerre, du rapport de l'écrivain Céline et de l'ancien combattant Céline à la Première Guerre mondiale. Et dans Voyage au bout de la nuit, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une suspension du récit entre le moment où le narrateur est présenté comme combattant et les épisodes qui retracent en fait l'expérience combattante, et puis une suspension où Céline nous dit au fond j'arrête le récit parce que on ne pourrait plus comprendre ce qui s'est passé, et puis ensuite on retrouve le narrateur, mais cette fois il est à l'hôpital, il est blessé psychique, en fait il est traumatisé, et donc la blessure de Ferdinand dans Voyage, elle s'est transformée, si vous voulez, en une blessure psychique. Donc il y a toute une série de métamorphoses et de jeux, et là dans Guerre, donc on est un tout petit peu après Voyage au bout de la nuit, probablement au plus tard au premier semestre 1934. Mmh. Donc là, il expérimente aussi, il retravaille véritablement, il essaie de mettre au point son style, hein, puisqu'il Alors y a voilà, une évolution c'est, entre c'est, guerre et voyage.
Voilà,
et
c'est ça que je voudrais qu'on aborde. C'est vous dites que la Première Guerre mondiale a donné à Céline auprès du public son statut de grand écrivain, parce qu'on a vu en lui le premier, ou sinon ou en tout cas le principal témoin, l'écrivain de l'expérience de la Première Guerre mondiale, et que les deux trajectoires, la trajectoire de la guerre et la trajectoire de la carrière littéraire de Céline, sont nouées dès le départ, et que ça va se jouer en particulier à travers sa manière d'écrire. C'est ça qui va la guerre fracture le temps, sépare deux mondes et deux temporalités. Oui. Et cette disjonction va se jouer dans l'écriture de Céline lui-même.
Oui, c'est-à-dire que effectivement, alors il y a deux choses. Il y a d'abord l'invention hein, du grand écrivain entre guillemets qui effectivement est né avec Voyage et avec la reconnaissance par d'une part la critique littéraire et par le public puisque Voyage est quand même un succès littéraire, un succès de librairie de ce récit qui attaque on va dire le récit dominant de la guerre, certes sanglante mais néanmoins héroïque on va dire des combattants français, et puis ce texte qui lui s'insère vraiment dans un mouvement de contestation de justement de ce premier discours qui s'était beaucoup mis en place dans les années 20, et là avec un développement du pacifisme extrêmement fort, et en fait Voyage rencontre, si vous voulez, cette attente très très forte au sein de la société française d'un autre discours qui conteste, si vous voulez, ce carnage. Et Céline arrive à ce moment-là, justement, et c'est ça qui fait l'incroyable réception de ce texte. Et puis aussi, donc, et c'est la deuxième dimension, c'est l'entrée, en fait, dans le récit lui-même et dans l'écriture d'un langage, d'un langage qui est un langage extrêmement ordurier, argotique, qui est d'ailleurs mal perçu par une partie de la critique, mais qui est au cœur même du propos de Céline. C'est-à-dire que, au fond, la littérature, pour Céline, peut tenter de dire quelque chose de la guerre et de ce que, effectivement, la guerre a fracturé dans la conscience des hommes. Et d'une certaine façon, le début de guerre, du roman, donc, enfin, plus exactement, des feuillets que nous avons actuellement, repart de là, c'est-à-dire de cette expérience d'un homme qui est blessé, alors avec une complète, ça a été dit, reconstruction de la blessure, puisqu'en fait, dans Guerre, on nous montre un blessé qui a une blessure au bras, mais qui est aussi blessé à la tête. Donc Céline revient et en fait creuse le sillon du mythe qu'il a lui-même généré à partir de 1932. Hein, on trouve dès 1932 dans une interview avec un journaliste l'hypothèse farfelue de la trépanation, si vous voulez. Et donc, d'une certaine façon, les feuillets de guerre reviennent là-dessus, mais surtout, ils nous disent que, au fond, la guerre fracture la conscience, elle fracture c'est ça. Aussi le rapport au temps.
Le rapport
donc
au temps.
Il y a des gens qui sont restés dans le temps d'avant.
Et cette disjonction, elle se fait notamment dans le style. Hein. Il y a des notations de Céline qui sont intéressantes. Oui, il parle de la façon Ferdinand parle de la façon dont son père écrit. De mon père, des lettres parfaitement écrites en parfait style. Le plus cruel de toute cette dégueulasserie, c'est que je l'aimais pas. C'est la musique des phrases de mon père. Plus loin, il parle du monde où Ferdinand faisait encore partie de ces gens qui parlaient comme avant qu'on soit mort. Et ce rapport à la famille, ce rapport au passé, ce rapport aux gens qui n'ont pas connu la guerre éclate en particulier dans les scènes avec les parents, Pierre Benetti, quand les parents viennent lui rendre visite. Où il dit qu'il ne conçoit pas ce monde d'atrocité, une torture sans limite.
Oui, il y a une disjonction très très forte entre le monde et la langue des parents, d'une part, qui passe le voir. Il y a une scène quand même extraordinaire dans sa drôlerie aussi, dans sa tristesse. Les parents viennent en visite aux soldats alités depuis Paris, donc c'est quand même un effort de venir jusqu'au front. On n'est pas très loin du front. Pendant que des soldats passent devant la fenêtre où on dîne et puis on parle des problèmes de la boutique à Paris, et il y a cette haine qui vise le monde d'avant, c'est-à-dire le monde d'avant-guerre, que ces gens de l'arrière ne comprennent pas, ils sont incapables de comprendre ce qui s'est passé pour un individu pareil, et c'est pas du tout anodin que la fin du roman se termine, et ensuite on lira le volume Londres, mais c'est aussi raconté par exemple dans Guignol's Band, c'est pas anodin que Céline s'en aille, en tout cas son narrateur, ou Ferdinand, s'en aille à Londres, c'est-à-dire dans une autre langue. Il aura besoin de passer par une autre langue pour peut-être peut-être la modifier le français ou revenir au français d'une autre manière. Je voudrais revenir quand même sur la chanson que vous avez passée tout à l'heure. C'est absolument significatif aussi hein, d'une à l'époque des années 30, Céline se place dans un champ qui est quand même plutôt celui de la gauche politique. Il est acclamé par Aragon. Mm-hmm. Il est acclamé par beaucoup de gens qui se veulent défenseurs des opprimés, des ouvriers, du monde prolétaire. Et lui, il se place dans ce champ-là, très populo, bien très sûr, populaire. Mais quand même...
On dirait populiste aujourd'hui.
Je sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas... Il fait en sorte de se placer là, alors que son engagement politique, tout juste après, hein, il faut rappeler quand même qu'on parle d'un texte guerre, donc 33, 34, c'est précisément un texte d'entre-deux, c'est-à-dire que c'est un texte qui est écrit entre les écritures de romans, Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit, et une écriture de propagande. Il n'y a pas de souci là-dessus. Quand on parle des pamphlets, ce sont des écrits de propagande.
Et 34 va être une année charnière, puisque c'est l'année du
Et il va aux manifestations.
Il va aux manifestations d'extrême droite, absolument.
Il faut toujours se méfier de ce que met en place Céline. C'est un écrivain, mais c'est aussi quelqu'un d'extrêmement retors qui va nous faire croire énormément de choses sur son propre compte. Mmh.
Alors, un des éléments que vous soulignez, Odile Roinette, qui est un des éléments passionnants à mon avis, c'est le rapport à la puissance. C'est-à-dire que la Première Guerre mondiale ouvre la grande crise de la virilité dont tout le monde nous rebat les oreilles aujourd'hui, mais c'est à ce moment-là que ça se joue. Ça se joue dans l'œuvre de D.H. Lawrence, ça se joue dans l'œuvre d'Hemingway, qui entretient avec Céline des rapports qu'il faudrait analyser de façon intéressante, parce que chez Hemingway aussi, il y a tout un lien, tout un rapport à l'impuissance, en particulier dans Le Soleil se lève aussi, mais dans d'autres livres également, liés à la Première Guerre mondiale. Et chez Céline, cette impuissance, ça va vraiment être le moteur de sa fureur. Hein. C'est lié à la honte. Mmh. Il l'écrit. C'est la perte du sentiment de dignité. C'est pas tant que j'ai dégusté que je me rappelle que d'être plus responsable de rien du tout comme un con, plus même de ma bidoche, c'était plus qu'abominable. C'était une honte. Il parle des hommes qui ne bandent plus. Et c'est la fin du mythe du soldat qui contrôle ce qui se passe sur un champ de bataille.
Oui, je crois.
C'est le début de la guerre de masse. C'est le début de la guerre de masse, quoi.
C'est un point très très important et je crois que donc guerre d'une certaine façon revient sur ces obsessions céliniennes qui sont en fait formulées par Céline dès très très tôt, en fait dès son séjour en Afrique au Cameroun. Mmh. Donc il part, en fait il arrive à sortir de la guerre, il se fait même réformer par complaisance en fait depuis Londres, et il part ensuite au Cameroun pour tout simplement faire fortune sur le dos évidemment des populations coloniales en exploitant une plantation en particulier de cacao au Cameroun. Et là, depuis le Cameroun, depuis l'Afrique, nous avons toute une correspondance assez volumineuse avec une amie, Simone Saintu, et aussi avec ses parents, où en fait, il revient sur ce qu'a représenté la guerre pour lui, et où il développe ce thème de la désirilisation du monde, suscité par la guerre, sur son inquiétude en particulier que les femmes puissent prendre une place qu'elles n'avaient pas auparavant, mmh, pendant la Première Guerre mondiale, d'une sorte de dépossession, si vous voulez, des rôles, des attributs et du pouvoir masculin. Et ça, c'est quelque chose qui est très très présent dans sa vision véritablement d'une guerre qui est aussi pour lui une guerre de civilisation, un choc de civilisation, où d'ailleurs il très tôt, dès l'Afrique aussi, il considère que l'Allemagne fait et pratique la guerre efficace, hein, il le dit, il loue finalement d'une certaine façon la manière de combattre et de d'être en guerre des Allemands contre ce qu'il aussi attribue à une sorte de décadence française, hein, c'est le thème de la décadence, le thème de la disparition au fond des valeurs constitutives d'une civilisation entre guillemets, selon Céline, bien évidemment. Tout ça, c'est très 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 fort et très présent. Et dans Guerre, on retrouve tout cela sous la forme de cette effectivement de ce soldat hein, qui ne bande plus. Mmh. Hein, le terme, le verbe et revient constamment dans les feuillets. Donc il y a cette mise en scène du blessé, hein, qui est aussi une façon aussi pour Céline de contrecarrer tout un discours très profondément ancré dans la culture occidentale qui liait, si vous voulez, justement la blessure et la virilité. C'est-à-dire que la blessure était une marque du courage.
Oui.
Et au fond, Céline, il déconstruit tout ça. Pour lui, évidemment, dans sa vision totalement nihiliste du monde, de la société, de la guerre, il n'y a plus aucune valeur, il n'y a plus que des hommes qui ne bandent plus et des femmes qui sont victimes.
Alors, c'est Pierre Manetti, juste une seconde, le parallèle avec Hemingway, je trouve qu'il est assez frappant quand on pense au Soleil se lève aussi, parce que là aussi, il y a le rapport à la blessure qui n'est plus du tout sur le mode de l'héroïsme, mais sur le mode de l'impuissance. Et le personnage de l'adieu aux armes, Jack Barnes, est confronté à Lady Ashley, qui est la femme émancipée, la femme garçonne. Chez Céline, les femmes dans Guerre sont soit des sadiques, monstres. Des monstres, oui. Soit des prostituées qui se font passer à tabac ou violer.
Oui, mais contre, vous parliez d'Hemingway, on peut parler de beaucoup d'écrivains qui ont fait l'expérience de la violence de guerre. Céline choisit d'être celui qui reproduit cette violence. Alors, sur le lecteur, ça fait un effet très fort, mais il faut réussir, grâce parfois à des éditions critiques, grâce à des éclairages, à prendre distance quand même avec mm-hmm. cette violence qui est constamment reproduite. Et c'est étonnant comment la réception critique, là, depuis la parution de ce livre, a salué un chef-d'œuvre, sans expliciter les critères d'ailleurs de définition d'un chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre qui nous parlerait de la violence. Et surtout sans nous dire qu'il s'agit d'un texte particulièrement inachevé. Inabouti, qui ressemble quand même à un brouillon, à une matrice, et à la fois une matrice d'écriture, mais une matrice aussi idéologique. Y a des passages très forts où Céline semble avoir trouvé hein, quelque chose. Y a certaines phrases qui sortent du lot, mais globalement, c'est un texte qui est lui aussi d'entre-deux. Hein, tout à l'heure, on parlait de cet entre-deux-là, entre le roman, l'écriture politique. Et Henri Godard, qui est un grand spécialiste de l'œuvre de Céline, disait il n'y a pas longtemps qu'en 1933-34, Céline n'a pas encore trouvé son style. Et donc, on est devant aujourd'hui, en 2022, nous, on lit en 2022, il faut bien se placer là, on est devant un texte qui a bientôt une centaine d'années, et d'une certaine manière qui essaye de retranscrire cette violence, mais qui nous la transmet avec quand même un choc temporel dans cette affaire, qu'il faut prendre en compte dans notre lecture.
Alors la violence elle est physique hein, il y a une scène de voyeurisme terrible vers la fin du livre où le narrateur
c'est une mise à mort
c'est une mise à mort qui est auquel le narrateur assiste avec
une réjouissance,
une certaine délectation. C'est pas le seul élément de violence hein, les fauteurs de guerre supposés sont dénoncés de manière différente. Il y a les députés, le livre, il y a des allusions à l'antiparlementarisme, il y a les femmes d'une manière générale qui sont des profiteuses de guerre parce qu'elles deviennent sadiques, et puis il y a les bicots, les arabes, alors tout ce vocabulaire sur lequel l'édition passe de manière absolument invraisemblable.
De manière complaisante, c'est-à-dire qu'on est devant une édition qui aurait pu faire quelque chose d'extrêmement intéressant. Pascal Fouché, l'historien et spécialiste de Céline, qui a participé à cette édition, l'avait fait de manière extrêmement claire avec les écrits politiques de Céline. On comprend pas bien pourquoi il y a un tel écart en termes de qualité critique. Je parle des notes, de la préface, du glossaire. Pourquoi il y a un tel écart notamment, je parlais tout à l'heure des 75 feuillets de Proust. Pourquoi on fait pas le même effort critique
sur Céline? dans le glossaire, ça a déjà été souligné, hein, mais Bico est traduit par Maghrébin.
Voilà, c'est ce qu'on disait avec Tiphaine Samoyo dans l'article qu'on a publié dans En attendant Nadeau. Il y a un glossaire qui nous permet de nous repérer si on connaît pas bien l'argot populaire ou des soldats ou l'argot médical aussi. Mais cet argot, il y a certains mots qu'on connaît. On peut deviner que raccourcir, ça signifie guillotiner. C'est pas inconnu. Mais surtout, il nous manque des mises en contexte d'un langage extrêmement violent, très très situé dans l'espace colonial aussi. Quand vous parliez du terme bico, ce n'est absolument pas anodin que Céline l'emploie. Et il se trouve que on a des synonymes placés pour ces termes qui aujourd'hui en 2022, franchement, on peut s'en passer ou alors on peut demander un effort critique.
Alors l'effet que ça fait, c'est on a l'impression que l'édition cherche à tamiser la violence du texte.
Oui, c'est paradoxal.
En réalité, c'est paradoxal. Ça l'a fait ressortir, bien sûr, au contraire, mais on a l'impression qu'on essaye de rendre Céline
Acceptable. Oui, acceptable, il y a quelque chose
c'est pas si méchant,
de commode et d'acceptable aussi dans le fait de on en parlait tout à l'heure avec Odile Roinette, dans le fait de le présenter comme un pacifiste traumatisé. C'est-à-dire que c'est quand même une image extrêmement douce. De quelqu'un qui a été marqué par la violence qu'il a reproduit dans son texte.
Odile Roinette, sur cet aspect des choses, sur cette violence et sur qui s'exprime de manière pulsionnelle en fait dans ce texte, pas encore complètement politique.
Oui, mais en même temps, je pense que c'est un texte où, d'une certaine manière, Céline fourbit ses armes. C'est-à-dire qu'il est en train de mettre au point, au fond, une écriture de type agonistique, enfin, où il y a cette violence de la guerre et cette violence de ce qui a été traversé. Il la retourne pour la renvoyer au lecteur et donc pour aussi venir en quelque sorte taper sur le lecteur. Et d'une certaine manière, la langue et sa crudité, elle est là aussi pour ça. Et d'ailleurs, on peut parmi plein d'autres raisons, regretter que ce lexique, par exemple, final soit truffé d'erreurs. J'en prendrai un exemple, le mot de doublard, qui est un mot d'argot en fait dans le contexte où il est utilisé par Céline signifie et renvoie au fait au mot qui était utilisé dans l'argot militaire pour désigner un sergent-major, donc un sous-officier, et pas du tout comme ça c'est indiqué dans l'édition pour parler d'une femme travaillant pour un souteneur. Donc vous voyez, il y a énormément d'erreurs. Et puis surtout il y a une sorte effectivement de tamis qui est mis où on ne parle absolument pas de la violence de ce vocabulaire aussi à l'égard des étrangers, parce qu'il y a les femmes, il y a les étrangers, donc les bicots, les sidis, et ça renvoie aussi très très fortement à la manière, à la vision racialisée qui devient et qui est en train de devenir de plus en plus présente chez Céline, et qui est déjà très présente dès 1916 dans sa correspondance africaine. J'y reviens lorsqu'il parle des populations africaines. C'est quelques exemples, les gueulards de nègres, ou bien autre exemple, et là c'est plutôt du côté de la fiction dans Voyage, la négrerie pue sa misère, ses variétés interminables, ses résignations immondes. Vous voyez, donc on a vraiment là un texte qui d'une certaine manière déjà est vraiment politique profondément. Moi, je pense que le texte de guerre est politique. Il est alors discrètement, effectivement, anti-parlementariste, et on est vraiment aussi dans le contexte de l'écriture de 34 et le contexte de la lutte contre la République. Ça renvoie aussi à des textes que Céline a publiés, non pas dans l'ordre de la fiction, mais en particulier sa thèse de médecine, qui est consacrée à Semmelweis, et qui est déjà un lieu où il expérimente sa haine de la Révolution française, sa haine de la République.
Pierre Benetti.
Non, je voulais revenir sur cette euphémisation de la violence par l'édition critique qui nous est proposée. Elle n'est pas si paradoxale que ça, quand même, parce que commencer la parution des manuscrits retrouvés par ce texte-là permet d'insister de manière extrêmement franche sur un écrivain qui va être identifié. Si on ne fait pas attention, comme on le fait là à présent, sur la fabrique de la haine qui a lieu quand même dans ce texte, si on n'y fait pas attention, ça permet de considérer que Céline est un grand romancier d'avant-guerre et c'est tout.
Oui.
Un romancier populaire qui nous rend compte de la Première Guerre mondiale. Quand même, l'édition nous parle d'un témoin. Là, il y a une confusion, c'est-à-dire que non seulement il est acteur de la Première Guerre mondiale, mais il est bien aussi acteur de la Seconde. Mm-hmm. Hein, il n'est pas absolument pas témoin des événements.
Oui, absolument, absolument.
Et donc, il faut replacer quand même la parution de
François
guerre.
Gibault utilise plus jamais ça, comme si Céline avait été capable de prononcer une phrase pareille.
C'est ça. Et donc, c'est quand même un contexte où insister sur un texte de 33-34 permet de contourner. Gallimard avait eu le projet de rééditer
les pamphlets.
Les écrits de propagande de Céline appelant à la mort des Juifs. D'ailleurs, j'aimerais savoir, on pourrait demander si au sein de cette valise transmise par Jean-Pierre Thibaudat aux ayants droit et à la police, puisque aussi il y a eu une enquête là-dessus, est-ce qu'on a eu accès aux documents antisémites, à la propagande qui était bien là-dedans, parce que dans le relevé, il semble bien qu'il y en avait.
Voilà, on va achever cette émission, mais c'est intéressant de voir l'actualité finalement de cette édition, dans cette façon de polisser une violence qui est totalement sauvage dans le texte, mais qui est très bien.
Et malheureusement, qui nous pose aussi des questions sur aujourd'hui, comment on lit un texte rempli d'une violence contre les femmes et les étrangers aujourd'hui en 2022.
Mmh, absolument.
À Stalingrad. Débris d'hélice carbonisé, brûlé, mot brûlé au phosphore, guignol et ferry vitrifié, sur la butte à l'heure où sa mort, Oberflick fureur dans la danse, mignol en transe, valse et gamète, Rastapouer de la survivance, qui frappe le bulle dans sa tête. Prissy Grabateur et Fiante, la balabouilleur à côté, canouille Camon, ils en râlent, nous le retour à Stalingrad. Gibault motorisé tout neuf, dans les rues de Sigmaringen.
Merci Pierre Benetti. Je rappelle votre article co-signé avec Tiphaine Somoyo, Comment peut-on lire Céline aujourd'hui, sur le site En attendant Nadeau. Et merci Odile Rouanet. Je rappelle votre article dans AOC, Retour à la nuit sur Guerre de Louis-Ferdinand Céline. Et votre livre Un long tourment, Louis-Ferdinand Céline entre deux guerres, 1914-1945. Et bien sûr, Louis-Ferdinand Céline, Guerre chez Gallimard.
Seigneur Bébert du Rigaudon, c'est le temps de mettre à la vague, le temps de voguer sur Meudon, loin des cachots de Copenhague.
C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Aurélie Marsay, avec à la technique Dali Yaya, et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.